Je crois que la chose la plus importante, c'est l'échange qu'on va avoir. Ce n'est pas forcément la conférence que je fais. Ce n'est pas forcément l'expérience que je vais essayer de développer devant vous pour vous montrer à quel point le droit peut être utile et efficace, combien vous, demain, d'ailleurs, à votre place, vous pourrez faire peut-être comme nous avons fait et comme j'ai fait, c'est-à-dire faire confiance effectivement à la justice et de trouver des solutions dans ce monde contemporain qui est si à l'errance de signification et de son avenir. Donc l'environnement représente un socle tout à fait important pour servir de base sur votre génération. Et c'est pour vous qu'on s'est battu de façon évidente. Il y a deux choses à dire, d'ailleurs, une petite rectification qui est très simple. D'abord, première, c'est vrai que j'ai prêté serment en 1968, l'année où on donnait tous les diplômes, mais j'ai quand même été reçu premier, tout de même, je tiens à le certifier. Et deuxièmement aussi, pour être sympathique, et pas sympathique parce que c'est la nécessité, il faut savoir que tous ces grands procès, sauf celui de la montée d'Isson dont je vous parlerai tout à l'heure, n'ont pas été faits tout seuls, ils ont été faits avec une certaine dame que vous connaissez, qui s'appelle Corinne Lepage, qui est mon épouse, et on dit toujours que à deux, on fait trois. Donc, par conséquent, si j'ose dire, la conférence est faite aussi en son nom. Elle est actuellement au Parlement européen, mais nous avons passé toute notre vie à effectivement essayer de faire entrer le droit, de faire entrer l'environnement dans le droit, parce qu'il n'existait pas à ce moment-là. Donc, le thème de ce soir, c'est incontestablement la responsabilité environnementale de titre ces perspectives ouvertes par l'affaire de l'Erika, c'est-à-dire est-ce que l'Erika a vraiment marqué quelque chose? Bon, d'abord, l'affaire de l'Erika, c'est une affaire de fait, dont je parlerai en détail, parce qu'il faut connaître les faits pour savoir pourquoi le procès a abouti et pourquoi il était difficile. C'est 6 ans d'instruction pénale devant le juge d'instruction à Paris. C'est 2 procès en première instance pendant 3 mois en première instance devant le tribunal correctionnel de Paris, devant la cour d'appel. Le tribunal correctionnel, c'était 2007, c'était janvier-février 2007. Comment dirais-je, la cour d'appel, c'était septembre, octobre, novembre 2010. C'est extrêmement long, extrêmement difficile. Il y avait beaucoup de parties. Ce sont des procès fleuves où il y a beaucoup de personnes en cause. Et puis l'arrêt de la cour de cassation, qui est le plus important, qui est du 25 septembre 2012 et qui a surpris tout le monde d'une certaine façon parce que les attaques des parties adverses étaient si fortes qu'ils avaient réussi à convaincre ce qu'on appelle le rapporteur et l'avocat général à la Cour de cassation de faire la cassation de l'arrêt de la Cour de Paris, c'est-à-dire nous obliger à recommencer un procès, ce qui était une perspective qui était absolument épouvantable. Nous nous sommes battus contre ça pour éviter, comment dirais-je, la course à la néantification de l'arrêt de la Cour de Paris. C'est toujours dans les derniers mètres qu'on gagne une course, d'ailleurs. Alors, ce que j'aime bien être clair sur les sujets, je vais vous dire exactement comment je vais développer le sujet. Je vais le développer en 3 points, pratiquement. J'ai essayé de vous montrer en quoi la décision de la Cour de cassation est exemplaire en elle-même. Pourquoi elle est exemplaire en elle-même? D'abord parce qu'effectivement, c'est la première fois en France où on a une décision d'une juridiction supérieure. C'est la première fois que le Conseil d'État, lui, a son contentieux administratif. Il a sa spécialité sur ces domaines particuliers. Mais au judiciaire, c'est la première fois que la juridiction suprême se prononce. Ça, c'est important. Elle se prononce sur le droit commun, d'ailleurs. J'insisterai beaucoup là-dessus tout à l'heure. Deuxièmement, quelles avancées ont été conquises dans cette affaire de l'Erika au point de vue du droit? Qu'est-ce qui n'était pas acquis et qu'est-ce qui est acquis maintenant? Puis troisièmement, quelles leçons à en tirer pour l'avenir? Alors tout ça tourne autour de la responsabilité environnementale. Et vous remarquerez avec moi, enfin je suis comme tout le monde, j'ai fait des études classiques, un procès ça se fait par la procédure, ça se fait par le droit commun, ça se fait pas... Le droit de l'environnement est un droit qui est, comment dirais-je, qui est spécialisé par sa matière, mais ses instruments sont des instruments classiques. On utilise la procédure civile, la procédure pénale, la procédure administrative, et on applique des règles qui sont déjà préétablies. Mais le mot « responsabilité environnementale » est un mot qui est ambigu, une expression qui est ambiguë. D'abord, sur la responsabilité elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, la responsabilité? C'est répondre d'eux. C'est donc une sanction, à proprement parler. Mais aussi, la sanction est importante, notamment dans le domaine de l'environnement, parce qu'elle montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, elle a un rôle préventif et un rôle prédictif, d'une certaine façon. Et donc, elle rend le droit de l'environnement crédible. Si Total n'avait pas été condamné, si Lamoco n'avait pas été condamné, effectivement, on aurait pu parler d'environnement, mais le droit n'aurait pas été crédible. Le droit contre le pollueur n'aurait pas été crédible. Et ce qui est important aussi dans le domaine de la responsabilité environnementale, parce que il y a toute une série de chaînes dans la décision pour arriver jusqu'à l'environnement, D'après le droit administratif, il faut des autorisations administratives, mais il faut une initiative privée. En matière médicale, il faut une autorisation de mise sur le marché, il y a différents acteurs, etc. Surtout, ce qui est important, c'est dans la tendance actuelle du droit, c'est de remonter aux causes premières et aux responsabilités premières. Il ne s'agit pas de faire comme on fait actuellement dans ce procès du Prestige. Je pense que vous savez ce que c'est que l'affaire du Prestige. C'est un pétrolier qui a sombré au large de la Galicie et du Portugal en 2006, à peu près. Nous étions partie civile pour quelques communes dans le sud de la France, mais, le procès est espagnol actuellement. Et le procès du Prestige, qui est en cours depuis plusieurs mois, est un procès dans lequel on ne poursuit que des lampistes, les fonctionnaires de l'administration de la marine marchande, quelques sociétés, inutiles, qui sont du côté de Vaduz ou du côté de la Suisse, à proprement parler. Et donc, par conséquent, le procès du Prestige n'aboutira pas à des choses importantes. Il aboutira simplement à une sorte d'administration de la marée noire et vue par le judiciaire. Donc, mais si vous ne mettez pas dans un procès la totalité des personnes victimes d'un côté et d'autre part la totalité des responsables, vous manquez le but, à proprement parler. Donc, il est essentiel toujours de remonter aux causes premières dans les grands procès d'environnement. Donc, le mot sanction a l'importance. Il vise le passé, mais il vise l'avenir aussi, et il vise aussi les responsabilités ultimes. Ça, il faut toujours avoir ça présent à l'esprit. Deuxièmement, la responsabilité environnementale, c'est la réparation. Or, que connaît-on actuellement en réparation? En matière d'environnement, vous comprenez bien comme moi que de réparer en argent un dommage à l'environnement, ça n'est pas forcément adéquat. C'est nécessaire dans l'état actuel du droit, mais la vraie réparation, ce serait la remise en état lorsqu'elle est possible. La vraie réparation, ce serait la compensation d'un dommage écologique, et ce n'est pas forcément l'indemnisation en argent. Pourquoi? Pour une raison très simple, il y a un célèbre auteur qui s'appelle Bertrand Jouvenel, qui a écrit dans un très beau livre qui s'appelle « La civilisation de puissance », qui n'a pas perdu de son actualité. Il disait « Que fait-on quand on indemnise une pollution ? On donne de l'argent, enfin je simplifie sa phrase, on donne de l'argent aux propriétaires, et au propriétaire pour le désintéresser de son bien, à proprement parler, puisque vous savez qu'en droit français, une victime est parfaitement libre d'affecter la somme d'argent qu'elle a reçue à la fin qui lui fait plaisir, qui lui est adéquate. Il n'y a aucune obligation pour la victime. La Cour de cassation l'a encore jugé il n'y a pas longtemps, aucune obligation pour la victime d'affecter l'argent à une réparation à proprement parler. Donc qu'est-ce que ça signifie aussi quand on indemnise en argent un dommage écologique? Alors, sans plus attendre, entrons sur le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que l'affaire de l'Erika? Donc, c'est effectivement un procès qui a duré 13 ans. 13 ans comme le procès de la Mococadis, 13 ans comme d'autres grands procès aussi. Il y a d'autres procès qui ont duré plus longtemps. Moi, j'ai fait le procès du Rhin contre les mines de potasse d'Alsace pour la province du nord de la Hollande sur les problèmes d'eau potable. Ça a duré 30 ans. Mais c'est pas forcément un miracle, mais c'est pas forcément une recommandation non plus que ça dure longtemps. Mais les procès dans lesquels il y a beaucoup d'acteurs, sont des procès extrêmement lents, extrêmement difficiles, qui supposent une stratégie, une constante d'attention. Quels sont les faits? On vous l'a rappelé tout à l'heure. 12 décembre 99, le pétrolier Erika, qui est un pétrolier qui est sous pavillon maltais, agréé par une compagnie maltaise, vérifié par un organisme qui s'appelle le RINA, Registre italien de naval, ça correspond un peu au Bureau Veritas, ou l'American Bureau of Shipping. Il faut une certification pour qu'un navire soit navigable. Il est possédé par des petites sociétés qui sont en Suisse, par des Italiens, mais les sociétés sont en Suisse. Il y a des propriétaires qui sont des propriétaires d'un seul navire. C'est des pavillons de complaisance, pour parler français. Mais l'Erika est équipé affrété par la société Total. Société Total, qui a différentes filiales, a conçu un système très particulier qui est le suivant. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que l'affaire de l'Erika, c'est pas du transport de pétrole brut. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. L'affaire de l'Erika, l'Erika contenait environ 60 000 tonnes de fioul lourd numéro 2. Qu'est-ce que c'est que le fioul lourd numéro 2? C'est le résidu de la fabrication de la distillation du pétrole. Quand vous distillez du pétrole, en fin de colonne, vous avez les goudrons les plus forts et les plus durs, qui sont les plus toxiques, qui comprennent un certain nombre de substances chimiques qui sont extrêmement dangereuses pour la santé. Et Total avait une idée géniale, c'est que dans son usine de Dunkerque, au lieu de devoir traiter ses déchets, parce que cette espèce de goudron devait être traité, ça coûtait une somme considérable, on avait évalué ça, je crois, 1 milliard de francs à peu près à l'époque, et au lieu de le traiter directement, avec différentes opérations, ils ont eu l'intelligence, si j'ose ainsi m'exprimer, de le rebaptiser fioul lourd numéro 2, c'est-à-dire commercialisable dans les centrales thermiques, notamment du côté de l'Afrique et du côté de la Sicile, on est un peu moins regardant sur les fiouls qui ne doivent pas être trop souffrés. Et donc ils ont fait la culbute, si j'ose dire, transformer un déchet en matière première réutilisable. Seulement, il n'y a qu'un malheur. C'est que le transport de ce fioul lourd numéro 2 nécessite des conditions absolument extraordinaires pour la sécurité. C'est-à-dire que si vous ne le chauffez pas à 60-70 degrés à peu près, il se solidifie et automatiquement, le bateau n'est plus navigable. Bien entendu, puis le produit est fichu. Donc il faut trouver des bateaux qui acceptent ce genre de transport dans une mer qui est à 0 degré, un peu de chauffe près, enfin pas loin de 0 degré. Il faut trouver de l'énergie dans le bateau pour ajouter du chauffage, et qui prend énormément d'énergie sur le moteur lui-même, bien entendu, et pour maintenir la cargaison toujours à 70 degrés. Quand il y a un coup de tabac et que le bateau est affaibli, et qu'au surplus il était en mauvais état, mais ça on verra ça tout à l'heure, effectivement le naufrage est absolument fatal. Il y avait une chose qui nous avait intrigué dans le dossier, on n'a jamais eu de réponse, on se pose des questions abominables, c'est qu'il semblerait, d'après les pièces du dossier, que l'Erika, qui a chargé à Dunkerque et qui devait arriver en Sicile, n'avait pas de fioul suffisant de soute pour arriver à destination. Donc, des mauvaises idées qui consistaient à dire, après tout, s'il avait un naufrage, ce n'est pas un drame absolu. Ça a été débattu devant la cour d'appel, on n'en a jamais eu de preuve, mais enfin, c'était pratiquement son deuxième voyage de ce même type, dans la même saison, dans la même époque, avec un navire qui était incontestablement, qui aurait dû être mis au rebut après son passage devant un chantier yougoslave où les assurances ont, comment dirais-je, ont beaucoup hésité à donner sa certification pour sa navigabilité. Donc, voilà les acteurs du drame posé. Le bateau se casse en deux en pleine nuit. Et pratiquement, il n'y a pas d'autre solution que d'évacuer l'équipage. Et puis, le pétrole n'arrive pas, le fioul lourd n'arrive pas tout de suite sur les côtes. Vous vous rappelez qu'en 99, il y a eu la tempête, etc. C'était drossé sur les côtes à partir de fin décembre. C'est tout le Morbihan jusqu'à la Vendée qui est pollué, pratiquement. Et j'insiste bien sur une chose, et ça a posé beaucoup de difficultés à l'époque, c'est que beaucoup de bénévoles, comme d'habitude dans ces affaires, font le travail du pollueur, si j'ose dire, et ont commencé à ramasser plus ou moins à main nue ce fioul lourd numéro 2. Il a fallu effectivement intervenir, parce que c'est des produits extrêmement toxiques, c'est très dangereux, même avec des gants, etc., pour arriver à, avoir un ramassage raisonnable. Évidemment, dans ces circonstances-là, s'est posé immédiatement le procès. Je dois dire qu'il y a eu des rapprochements entre Total et les différentes autorités locales, mais il n'y avait pas d'accord possible sur un nettoyage. Il n'y avait pas d'accord possible sur la prise en charge des frais. Et puis, ça a soulevé tellement d'émotions en Bretagne. Il y a quand même, le doyen l'a rappelé tout à l'heure, 67 Torrey Canyon, une marée noire de 30 000 tonnes sur les côtes bretonnes. Après ça, la Mococadie, 16 mars 78, 400 km de côte polluée, de Poudalmézo jusqu'à la baie de Saint-Brieuc, à peu de choses près. Marée noire extrêmement difficile, sur 220 000 tonnes. Vous savez que là, c'est du pétrole léger, ce qu'on appelle de l'Arabian Light, une partie s'évapore. Les 220 000 tonnes ne sont pas allées sur les côtes, il y a un tiers qui s'évapore, mais avec ce qui restait, à peu de choses près, 140 000 tonnes environ, et bien effectivement, ça suffit pour polluer largement les côtes. Et j'étais en Bretagne à ce moment-là, des deux côtés. D'ailleurs, on a toujours l'impression, quand on va dans des territoires de ce genre, qu'on est en guerre, l'armée est là, les gens sont armés de pelles, il y a une odeur épouvantable. Et il faut lutter contre ça. Donc les différentes régions que nous représentions à l'époque, mais la situation a changé, c'est-à-dire les Pays de Loire, la région Bretagne et Poitou-Charentes, nous ont choisi comme avocats un certain nombre de communes. Aussi également, le hasard de la politique fait que ces régions ont basculé à gauche, effectivement, pendant le cours du procès, et que finalement, Corinne Lepage et moi, nous avons travaillé avec les avocats qui nous ont succédé, qui sont d'excellents confrères. Mais à la fin du procès, nous n'avions pu représenter les régions. Pardon, nous avons représenté 12 communes, sur la base de laquelle, effectivement, s'est monté tout le procès. La vérité des choses, comme dans la Mococadis dont je parlais tout à l'heure, où là j'étais en tête du procès, Corinne Lepage m'aidait, dans l'affaire de l'Erika, c'est entièrement elle qui a fait la procédure pénale, à peu de choses près. Et moi, je suis venu en renfort sur la partie civile, et sur l'évaluation des dommages à proprement parler. Mais toute la stratégie, on s'est bien entendu entre avocats de parties civiles, il y avait des associations de défense de l'environnement, il y avait différentes parties, on s'est très bien entendu, et on a pu jusqu'au bout du procès avoir une unité de défense, à la différence de ce qui s'est passé d'ailleurs dans le procès AZF à Toulouse, dans lequel les parties civiles se sont tellement disputées entre elles que ça a nuit à la bonne tenue du procès, au moins en première instance. Alors, si vous voulez, enfin, il y a une question d'organisation et de choix de stratégie, c'est-à-dire le pénal s'imposait. Pourquoi le pénal s'imposait dans le domaine des catastrophes? Parce que la victime est dans une situation d'inégalité. Vous n'avez pas les moyens financiers ni les moyens matériels de la partie adverse. Qu'est-ce que fait la partie adverse lorsqu'il y a un sinistre de ce genre-là? Elle appelle l'assurance. Automatiquement, l'assurance couvre les frais de défense, la stratégie, et couvre les premiers risques. Et deuxièmement aussi, au point de vue fiscal, la partie adverse place les demandes de dommages et intérêts en provision. Et donc, par conséquent, ça allège de l'impôt. Tout bénéfice pour défendre sur un dossier de ce genre-là. Et les parties adverses, dans l'affaire Amoco-Cadiz, on avait plus de 100 avocats contre nous. Dans l'affaire de l'Erika, il y en avait au moins une quarantaine à peu près, de l'autre côté. Donc, effectivement, la bataille est très, très inégale. Pourquoi on choisit le pénal? Parce que l'affaire de l'Amoco-Cadiz avait fait naissance à la loi du 5 juillet 83, qui est dans le Code de l'environnement, qui punit le fait de polluer la mer par des déchets, par des substances de ce genre, même en pleine mer, d'ailleurs, on parlera de ça tout à l'heure, parce que c'est un des points difficiles du dossier, et parce que ça s'imposait, et puis parce que aussi, en 94, a été votée la réforme du Code pénal, qui fait que les personnes morales, comme vous le savez, sont responsables du fait des agissements des dirigeants. Le Code pénal prévoit 5 fois les pénalités qui peuvent être données et qui peuvent être attribuées, après procès, aux responsables des dirigeants eux-mêmes à proprement parler. Donc le procès pénal s'imposait pour une autre raison aussi, parce qu'on touchait la totalité des responsables, mais aussi parce que effectivement vous n'avez pas les moyens matériels et financiers de faire des expertises. Première chose qu'il faut faire quand il y a une marée noire comme ça, c'est que vous devez savoir que les autres navires qui sont là dans le secteur en profitent pour dégazer. Donc il faut faire la preuve automatiquement que le pétrole qui est arrivé chez vous vient bien du naufrage lui-même. Chaque pétrole a son identification à sa formule, à proprement parler, des expertises peuvent immédiatement permettre de focaliser et de trouver la signature du produit polluant. D'autre part aussi, vous avez à démontrer par la suite que les lieux qui sont été pollués ne l'étaient pas auparavant, donc vous êtes obligé de faire un point zéro et effectivement de faire ce qu'on appelle chez nous en procédure une requête aux fins de constat d'urgence, voyez. On est toujours obligé en matière de pollution, en matière d'environnement, de mélanger les grandes procédures civiles, pénales et administratives, toujours. Donc le tribunal administratif interdépartemental est intéressant parce qu'il peut. Il avait là, je crois que c'était Poitiers et Nantes, par ordonnance conjointe, ils ont nommé un expert qui a fait toute la côte jusqu'à Zennes. Un procès, vous devez toujours commencer par des preuves du caractère acceptable du littoral, de sa non-pollution. Et d'autre part aussi, ça vous permet, parce que quand vous êtes en face d'un procès comme ça, vous avez des médias qui parlent et vous ne savez pas quels sont les acteurs à proprement parler. Vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Et les médias vous entraînent sur des fausses pistes et sur des erreurs. Donc quand vous avez des parties qui sont en face de vous désignées par le greffe du tribunal administratif, vous commencez à avoir un dialogue et pouvoir construire effectivement votre attaque à proprement parler. Donc le pénal s'imposait de façon évidente et après les véritables épaves que... Pas épave, non, épreuve, pardon, excusez-moi, l'épreuve que nous avons traversée, effectivement, au bout de 13 ans, pratiquement le résultat est là, toutes les personnes impliquées sont condamnées. Le fonds d'indemnisation a versé 110 millions d'euros à peu près, et le résultat financier de l'ERICA, c'est 220 millions d'euros. C'est à peu près le même prix, c'est à peu près la même chose que l'affaire d'Amoco-Cadiz. On a le même résultat aux États-Unis. C'est quand même quelque chose d'assez significatif. Ça couvrait les dommages. Les experts pensaient effectivement qu'on se rapprocherait de ces sommes-là. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement les dommages directs qui ont été réparés, c'est les dommages écologiques et les dommages à l'image de marque de la Bretagne. C'est ce qui est tout à fait important, qui est une transcription du dommage écologique sur les collectivités publiques et sur leurs projections économiques. Alors, si vous voulez, ce qui est important, enfin pour moi, pour ce procès, c'est que va donner des leçons pour l'avenir, des enseignements pour l'avenir, mais En fait, il a ses racines dans le passé. C'est ça que je voulais vous dire. Ça s'est pas fait en un jour. Un procès comme ça ne se fait pas en un jour, car on vient de très loin. Et on vous l'a expliqué tout à l'heure. Il faut prendre, par exemple, 67, l'affaire du Torre Canyon. Il n'y a eu aucun procès pour le faire du Torre Canyon. Il y a eu un procès qui a été démarré aux États-Unis, à New York, devant le tribunal fédéral. On trouve ça, d'ailleurs, dans une thèse qui a été publiée en Suisse, parce que c'est absolument... C'est trop ancien, on ne le sait pas. Mais l'Angleterre était... La Grande-Bretagne était touchée, la France était touchée, ils se sont alliés pour faire ce procès, puis tout d'un coup, les Anglais, qui sont des gens efficaces et intelligents, ont eu l'idée, ce qui est un peu audacieux, n'est-ce pas, on ne le ferait pas maintenant, de saisir un des pétroliers de la Gulf Oil, qui était responsable de la pollution. Ils l'ont saisi à Sumatra ou quelque chose comme ça. Et automatiquement, la partie adverse a transigé. Mais la partie adverse a transigé pour le bonheur de l'État britannique, pour le bonheur de l'État français. Les Bretons ont eu 300 000 francs de l'époque. Donc j'aime mieux vous dire que quand, effectivement, l'affaire de la Mouco-Cadiz arrive en 1978, ils ont ça en travers de la gorge, et le procès s'imposait automatiquement. Vous avez eu d'autres marées noires que le... Je vais très vite, mais d'autres marées noires que le Torre Canyon. Vous avez l'Olympique Braverie, 1976, le Belen, 1976 aussi. C'est des petites marées noires autour de l'île de Sein. Je suis déjà dans ces procès-là pour la procédure... pour le compte de la SEPNB, la Société de protection des natures en Bretagne. Et effectivement, le choix de l'avocat s'impose en 78. C'est le maire de Brest qui me demande de prendre en charge cette affaire à proprement parler. Alors, seulement, même maintenant qu'elle était après le Torre Canyon et après la Mouco-Cadiz, le droit applicable. Ben, je vais faire très vite, je vais faire de façon concrète et directe. Le droit applicable, d'abord, Torre Canyon, il n'y avait rien. Donc, il fallait se débrouiller. Donc, on n'avait pas de voie de recours possible. Ça allait faire un procès aux États-Unis, compliqué, etc. Et puis, à cette époque-là, pratiquement, le dommage écologique, on ne connaît pas. Il y a eu des essais d'indemnisation de dommages écologiques par la ville de La Baule, et on lui a refusé tout ce qu'elle voulait, etc. C'était pas dans l'esprit du temps. Mais les parties internationales se réunissent à l'Organisation mondiale du commerce international, et on décide... d'essayer de simplifier la vie des pauvres victimes. On va inventer une convention qui s'appelle la Convention de 69 sur la responsabilité civile du fait des dommages aux hydrocarbures. Puis on dit, comme c'est pas assez, on va inventer un fonds d'indemnisation qui va donner la contribution et la réparation des dommages aux différentes personnes qui pourront le réclamer. Alors, pour aller très vite, ça s'appelle le FIPOL, vous avez certainement entendu parler. Le FIPOL, comment ça marche? Ben, c'est alimenter un fonds international qui siège à Londres dans le cadre de l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, et qui reçoit des contributions des pétroliers en fonction du tonnage importé. Et cette manne est mise en commun et répartie sur toute la surface de la planète dès qu'il y a une marée noire. Croyez-moi, il n'y en a pas qu'en Bretagne, il y en a du côté du Japon, il y en a partout, etc., puisque c'est lié au transport et c'est quelque chose d'assez logique. Mais ce FIPOL a une difficulté extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais assez d'argent pour... effectivement, indemniser les victimes. Et dans tous les cas de figure, le procès va s'imposer de façon évidente. D'ailleurs, dans l'affaire Torre Canyon, il n'y avait rien. Dans l'affaire de la Mouco-Cadiz, il y avait la convention de 69 dont je vais parler. Il n'y avait pas le FIPOL. Le FIPOL a été institué uniquement, elle a fonctionné à partir du 16 octobre 1978. Quel était le système international sur lequel il fallait lutter? Parce que le système international nous a, si j'ose dire, complètement handicapés sur le sujet à proprement parler. Quel système international? Il dit, ben voilà, au lieu, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans une marée noire, au lieu de dire qu'il y a une dispersion d'acteurs, on va dire, mais il y a un responsable a priori. Alors on va trouver le responsable a priori, c'est le propriétaire du navire. Ah, très bien, le propriétaire du navire, formidable. Mais dans les discussions internationales, dans la convention, vous aviez deux thèses qui s'opposaient. On dit, le propriétaire du navire, c'est celui qui est celui qui fait la déclaration auprès de l'organisation internationale. Ma grand-mère peut déclarer un pétrolier si ça lui fait plaisir. À proprement parler, peut-être propriétaire du navire avec une société fictive. Si on prend simplement le critère de l'immatriculation, on ne demande rien d'autre que le critère d'immatriculation d'une société, où on peut y rechercher aussi les agents économiques derrière le propriétaire à proprement parler. Et ne accepter un propriétaire qu'une personne qui est sérieuse et solvable, etc. Le choix qui a été fait à cette époque-là, pavillon de complaisance, sans aucun problème, ce qui nous a créé toutes les difficultés que vous pouvez connaître et qu'on a connu, que la Mouco-Cadiz, c'était une société libérienne qui avait une plaque de cuivre au Libéria. L'affaire de l'Erika, c'est une plaque de cuivre à Malte. C'est rien du tout. c'est peut-être 10 000 euros de capital, c'est rien par rapport à la situation. Deuxièmement, pour nous embêter, si j'ose dire, parce que je suis très critique, ils ont inventé un système qui était très bien dans la Convention. Ils disent, oui, ben, le tribunal compétent sera le tribunal du lieu de dommage, après tout, pourquoi pas, mais enfin, entre nous soit dit, tribunal du lieu du dommage, c'est quand même un piège. Pourquoi ? Parce que si mon tribunal compétent est à Brest et que les agents sont à l'étranger à proprement parler, ben, je suis obligé de faire une procédure d'exéquature ou de recommencer la procédure à l'étranger. C'est la situation qui s'imposait pour nous dans l'affaire de la Mokokadis. On savait que les acteurs étaient américains. On devait faire 13 ans de procédure en France et recommencer 13 ans de procédure de l'autre côté. Donc de désigner le tribunal compétent, c'était déjà comme tribunal obligatoire, c'est un piège pour moi. Deuxièmement, vous avez la canalisation de la responsabilité sur un certain nombre, sur une seule personne, le propriétaire, le remorqueur, le capitaine, les employés, les préposés, tous ceux qui tournent autour de l'opération de transport exonérée par la Convention. Donc, pratiquement, on vous offre en pâture le solvable. Et le solvable, l'insolvable, qu'est-ce qu'il fait? Il consigne le prix de la cargaison et il attend le procès. Et si on démontre une faute personnelle d'une particulière gravité, on peut faire sauter le plafond de responsabilité, mais seulement pour quelle solvabilité? Donc, par conséquent, c'est bien organisé, mais ça ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas concret, c'est pas efficace. Et puis, quatrièmement, aussi, la définition des dommages est très courte. Ce sont des dommages indemnisables, uniquement les dommages qui ont une incidence économique directe. Donc, dommages écologiques, vous pouvez oublier à proprement parler. Donc, il a fallu, si vous voulez, lutter contre ce système qui, enserrait la responsabilité à proprement parler. Alors, c'est là où je rends hommage à la doctrine, et pour ça que je m'éloigne jamais de la faculté à proprement parler. Quand il a fallu avoir la responsabilité, dans l'affaire de la Mokokadis, par exemple, vous avez 90 communes à défendre, 2 départements, 3000 personnes, pour la responsabilité d'assigner à un endroit déterminé, vous allez vérifier votre solution auprès de la doctrine. Je pense que je peux rendre hommage ici directement à la fois au doyen Védel, qui était mon maître sur toute la partie droit public, il avait des questions très difficiles, sur la partie droit international, et puis d'autre part, le professeur Paul Lagarde, qui est un éminent privatiste, qui nous a expliqué ce que nous cherchons un peu, c'est qu'en définitive, ce droit spécial n'élimine pas le droit commun. C'est ça qui est important. Vous savez que ça n'existe pas en matière d'accident aérien. La Convention de Varsovie, la Cour de cassation dit, attention, la Convention de Varsovie, pour les dommages causés en matière de navigation aérienne, les accidents sur le sol, etc., c'est du droit spécial, on n'applique pas le droit commun. Là, on a interprété et on a eu le feu vert, en quelque sorte, pour essayer de partir sur le droit commun à proprement parler. Une telle organisation, un tel but ne peut fonctionner que s'il y a une organisation extraordinaire de la société civile. Les victimes, moi je disais dans la Mokokadis, il y a un seul responsable probablement, mais les victimes sont des milliers. Comment fait-on pour organiser ça? Comment fait-on pour organiser ça? Je crois que si j'avais à le refaire, on ferait une grande association qui regrouperait tout le monde à proprement parler. Mais là, ce sont les élus de la Bretagne qui sont réunis par comité de maires, et puis après ça, qui ont créé un syndicat intercommunal pour arriver à organiser, ou interdépartemental plutôt, pour organiser la totalité du procès. Parce qu'il faut financer les autres, par exemple, pour donner la finale. Dans l'affaire de la Mokokadis, je crois que les Américains ont dépensé de l'époque, on va dire 400 millions de francs, on peut traduire, ça fait un peu moins de 100 millions d'euros, à peu de choses près. Et nous, on a dépensé 10% de cette somme, à peu de choses près. Aussi, donc vous voyez les ordres de grandeur qu'il faut dans des procès de ce genre-là pour arriver à tenir longtemps et tenir la partie adverse. Il fallait avoir des pistes et il fallait avoir une organisation tout à fait particulière pour arriver au résultat. Et pour arriver au résultat, et on développera ça peut-être tout à l'heure, le vrai problème que l'on a dans ces affaires-là, c'est l'attitude de l'État. Que l'État, d'une certaine façon, je vais être odieux, mais c'est pas grave, on peut en discuter, l'État n'aime l'environnement qu'au second degré que lorsqu'il est contraint et forcé. Il ne l'aime pas forcément parce que ses priorités sont pas celles-là. Il est assureur, il est transporteur, il est producteur, il bénéficie d'un certain nombre de choses. L'environnement qui est son territoire, qui est son état de base, qui est la base de tout le reste, ne l'intéresse pas dans ses priorités. Et dans toutes les affaires que nous avons eues, et en particulier, je vais être très bref là-dessus, sur la Mokokadis, on racontera peut-être plus en détail ce qui s'est passé, mais la Mokokadis, l'État français était hostile et voulait empêcher les Bretons de plaider aux États-Unis sous la doctrine que l'on indique comme parinspatrié, c'est-à-dire père de la patrie. L'État représente les citoyens, vous, Bretons, vous n'avez rien à faire. C'est pour ça que je me suis fâché, que je suis allé voir le doyen Védel en disant « Monsieur le doyen, aidez-moi parce que c'est pas possible, l'article 72 de la Constitution, on ne peut pas accepter ce genre de choses-là ». l'État a été très, très dur avec nous, voulait nous empêcher de plaider à proprement parler, de nous représenter nous-mêmes en tant que Bretons. Et donc il a fallu, après ça, toute une manœuvre particulière avec l'État pour le faire revenir en arrière. Je l'attendais au tournant, d'une certaine façon, parce que dans le déroulement du procès, quand on a assis la compétence aux États-Unis, le groupe adverse a invoqué des fautes de l'État français, en disant « Vous avez mal nettoyé, vous avez mal surveillé vos côtes. » Moi, je suis un pauvre Breton, victime. J'étais voir les services du Premier ministre en disant « Écoutez, c'est très simple, moi j'ai un devoir, hein, personnellement, c'est de pousser mon procès jusqu'au bout. Est-ce que je vais conclure contre vous ou est-ce que vous alliez avec moi ?» C'est-à-dire que je renonçais effectivement à attaquer l'État en demande conventionnelle, me joindre à Moko, ce qui était d'ailleurs au point de vue image assez odieux, mais le responsable de procédure que j'étais, si l'État prenait 20 ou 30% de responsabilité et que moi, j'étais pas dans la procédure, je suis responsable vis-à-vis des clients. Donc il y a eu, on est obligé de faire la guerre à l'État pour qu'il nous reconnaisse à côté. Donc cette affaire-là, qui est quand même relativement importante. Dans l'affaire de l'Erika, le drame de l'affaire de l'Erika, à proprement parler, c'est surtout que l'État n'ait pas demandé le dommage écologique. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est quand même invraisemblable, alors que le dommage écologique, c'est le dommage du territoire à proprement parler, que l'État ne se sente pas concerné par le sujet et ne réclame pas au premier chef. Alors, c'est la grande difficulté, et celle-là, pourquoi l'État n'a pas réclamé le dommage écologique et pourquoi il vient dans des procès de ce genre-là, contraint et forcé. Alors, pour essayer de vous simplifier les choses, j'ai essayé de montrer les grandes étapes qui se sont passées dans les différents procès qui ont eu lieu sur cette affaire-là. Il faut dire que ces procès à Moko Kadhi, ces procès Erika ont été précédés, et c'est un précédent qui est un peu moins connu. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés à cette époque. Il y a eu un très grand procès que j'ai dirigé qui opposait la Corse à la société Montedison. Ça s'est passé dans les années 72-73. De quoi s'agissait-il? C'est très intéressant sociologiquement. La Corse est une île magnifique, avec des gens tout à fait agréables, et qui aiment beaucoup leur territoire à proprement parler, et qui ne supportent pas, évidemment, les invasions ou les actes absolument inadmissibles. Qu'est-ce qu'avait fait la Montedison, la puissante société italienne aux 434 milliards de lire? Elle avait créé une usine à côté de Scarlino, c'est pas loin de Livourne, et elle avait fabriqué du bioxyde de titane. Le bioxyde de titane est ce pigment blanc que vous voyez sur vos frigos, à proprement parler, qui permet de réfléchir la lumière et qui rend la peinture beaucoup plus compacte et plus solide. Comme on est dans la société de consommation, il fallait créer des usines. Et comment se fabrique le bioxyde de titane? Ça se fabrique par le procédé dit de l'attaque du minerai de base, qui s'appelle l'ilménite, par de l'acide sulfurique. C'est-à-dire que vous avez par jour, sur un procédé de fabrication, 3000 tonnes de déchets. Donc, acide sulfurique, oxyde de fer, vanadium, chrome, tous les métaux lourds qui sont difficilement assimilables par le vivant, à proprement parler. D'une façon totalement inconsciente, ils fabriquent l'origine de Scarlino, ils mettent un pipeline en l'air, en mer, à 3 km, immédiatement levé de bouclier. Après ça, ils prennent des bateaux pour le transporter dans les eaux territoriales italiennes, levé de bouclier du côté de l'office de tourisme de Livourne, interdiction absolue, le ministère de la Marine Marchande les oblige à déverser en haute mer. Et à ce moment-là, à proprement parler, la Corse l'apprend. Les marins-pêcheurs bloquent le port de Bastia, même la préfecture, la sous-préfecture de Bastia est saccagée en février 79, il y a opération île morte, il y a même des plongeurs qui vont essayer de poser des mines sur le Scarlino, qui est un des bateaux de... L'affaire tourne mal, proprement parler. Et, comment dirais-je, le ministère de l'Environnement dit, je suis désolé, c'est dans la mer internationale, on ne peut rien faire. Il se trouve que par le plus grand des hasards, si j'ose dire, j'ai été très lié avec un professeur de droit qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Pierre Ferrari, qui s'occupait de la chronique de droit italien à la revue de droit public, et on a découvert ensemble la loi italienne qui a incriminé la mort du poisson dans la mer internationale. Nous avions juridiction, automatiquement. Donc on a fait un procès à Livourne d'abord, qui a été un succès, qui a eu lieu à la condamnation, mais les Italiens ont voté une loi d'amnistie. Il y a eu un procès en France, on a fait juger, ça c'est très important pour la suite de l'affaire de l'Erika, que le juge judiciaire naturel est compétent pour une pollution commise en haute mer, dès lors que les effets se font ressentir sur le territoire de sa juridiction. Parce que ce n'est pas un îlot. Le droit de l'environnement, si vous voulez, ne peut pas connaître des îlots de non-droit. Ce n'est pas possible, à proprement parler. Donc la grande victoire de la Montedison, c'était effectivement d'avoir établi la juridiction. Puis après ça, j'ai fait indemniser les départements pour atteinte à l'image de marque et les marins-pêcheurs à des dommages dits écologiques qui ont été calculés sur la perte de pêche qui était reposée elle-même sur une analyse des atteintes faites à l'environnement. Le grand succès de la Mokokadi, c'est d'avoir fait condamner les maisons mères pour les filiales. Ceci est extrêmement important parce que le juge américain a vu que les plans du navire étaient conçus à Chicago, à proprement parler, donc que la maison mère était impliquée. Et donc, par conséquent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la nécessité de rechercher les responsables. Le juge fédéral n'a fait ni l'une ni deux, effectivement, a pris la société Standard Oil comme responsable premier, avec la société en dessous, Amoco International, Amoco Transport, tous les groupes de sociétés ont été condamnés. Cette jurisprudence fait fureur aux États-Unis. Elle n'a pas été transposée en France de façon claire et précise, sauf certaines parties de loi sur l'environnement, dans la loi Bachelot sur le problème des sols pollués, dans certaines circonstances. Effectivement, mais disons que, à l'époque, nous étions conseillés par le premier président Belé de la Cour de cassation, le regretté premier président, qui était en sous-main, qui n'apparaissait pas, qui nous a rendu un service extraordinaire, lui a toujours considéré que la grande victoire de la Mokokadis, on n'a pas eu énormément de dommages pour des raisons assez techniques qui sont liées au fait qu'on n'avait pas de jury, enfin, etc. Mais, comment dirais-je, la victoire de la Mokokadis, c'est par des parties étrangères d'avoir fait condamner une multinationale américaine. Alors, comment on apprécie le résultat de l'Erika, pour revenir au sujet lui-même, à proprement parler? La difficulté, qu'est-ce qui se passe au niveau de la question de la responsabilité d'abord? La Cour d'appel, après le tribunal de grande instance, n'a aucune difficulté à condamner la société de classification qui a donné le feu vert pour la navigation du bateau, la société RINA dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que les audits qu'elle a faits sont insuffisants, qu'on a contrôlé les documents, et que, en fait, en réalité, les procès-verbaux relatifs à la réparation du navire, à son entretien, pratiquement montraient des défaillances dans la coque. Ça, c'était connu de tout le monde. D'autre part, la société Total, qui avait fait ce qu'on appelle un vetting, c'est-à-dire un audit du navire avant de le transporter pour un produit dont j'ai dit tout à l'heure les caractéristiques, fuel lourd numéro 2 qui se solidifie, qui n'est pas du pétrole, à proprement parler, a accepté malgré tout le navire, malgré les défauts signalés sur les faiblesses de la coque à proprement parler. Seulement, les premiers juges, les juges d'appel vont avoir une position assez différente en ce qui concerne Total. Je dis, mais voilà, c'est très simple, la responsabilité, d'abord, aucun des deux n'a discuté sur la compétence, c'est-à-dire du juge français parce que la marée noire est intervenue, l'accident d'origine est intervenu hors des eaux territoriales, est intervenu dans la zone économique. Mais vous savez qu'en matière d'environnement, on ne regarde pas le fait à l'origine, on regarde les conséquences à proprement parler. Ce qui est punissable, c'est le fait que le pétrole atteigne nos côtes. S'il est dans la mer internationale, c'est une autre histoire à proprement parler. Les premiers juges n'ont pas fait de difficultés sur la compétence à proprement parler. Mais les premiers juges et la Cour d'appel non plus, mais sur la responsabilité, ils ont hésité beaucoup. Ils ont dit qu'en ce qui concerne Total, la situation, l'analyse de la situation fait que lui-même avait le rôle d'un affréteur, c'est-à-dire celui qui loue le bateau à proprement parler. Et donc, par conséquent, si on regardait la convention internationale, qui exonère un certain nombre de responsables, l'affréteur figurait parmi ces personnes déclarées irresponsables. Donc, par conséquent, condamnation au pénal. Si j'ose dire, acquittement au civil pour la société totale. Pourvoi en cassation, enfin, les dommages écologiques, je vais y revenir dans un instant. La Cour d'appel va juger les dommages écologiques d'une façon très intelligente et très intéressante, en suivant les méthodes d'un biologiste qui s'appelle le professeur Chevassieu-Louis, qui est l'ancien directeur de l'INRA, si je ne me trompe, et qui a inventé ce qu'on appelle les unités de biodiversité. Moi, ça m'a passionné. Il vous explique effectivement que l'on peut donner un prix à la biodiversité contenue dans différents milieux. Alors ça se fait par ce qu'on appelle la théorie dite des services rendus par la nature, à proprement parler. Il y a toute une commission qui a travaillé là-dessus. Alors pour un pré, on vous dit c'est 1600 euros. Pour un bois, c'est un peu plus. Un hectare de corail, c'est 10 000 euros. Et on a fait calculer par lui, enfin sur la base de ces méthodes, on a fait calculer le nombre de mètres carrés et d'estran pollués. On a dit 0,10 centimes de l'estran. On a fait déposer par expert. Ça vaut 0,10 centimes par le mètre carré. Ben, ça fait que pour la ville de La Baule, ça fait 400 000 euros, pour la ville de Pornic, 300 000, etc. Et donc, c'est la première fois qu'effectivement, de façon claire, nette et précise, le dommage écologique est pris en considération. Mon grand regret dans cette affaire-là, je vous le disais tout à l'heure, l'État est propriétaire du domaine public, l'État est propriétaire du patrimoine commun de la nation à proprement parler. Il s'est pas prononcé du tout. Il nous a laissé faire, peut-être c'est très bien. Et pour moi, le dommage écologique, si vous voulez, Personne ne l'a tout entier, c'est le dommage causé au milieu, mais personne ne l'a tout entier, mais chacun en a une part. Les marins-pêcheurs en ont une part, parce qu'il y a des pertes de richesse si l'estran ne fournit pas la matière biologique pour la reproduction des poissons. C'est un manque à gagner. Les pêcheurs à pied peuvent en souffrir, les touristes aussi, etc., parce que le paysage est modifié, etc., etc. Donc, la logique, la Cour de Paris a rendu un arrêt, d'ailleurs, je peux le dire publiquement, c'est quand même assez intéressant au passage, c'est que le magistrat de la Cour d'appel, qui présidait les débats de la Cour d'appel, était un juge d'instruction dans l'affaire de la Moco-Cadiz. Donc, il avait une certaine compétence, il avait une certaine idée sur ce sujet. Mais la partie adverse, en cassation, s'est déchaînée complètement. A remis tout en cause. L'avocat général a pris position contre nous, d'ailleurs, en disant qu'il n'était pas clair du tout que le tribunal français était compétent. Enfin, quand vous apprenez ça, après 13 ans de procédure, c'est une grande émotion, c'est pas compétent, parce que quand on regardait bien la convention Marpol, etc., on pouvait faire un certain nombre de choses, et que la loi de 83 était beaucoup plus exigeante que l'autorisée. Les textes internationaux, mais le professeur Bonaciès donne dans une chronique la réponse, il dit, mais les principes généraux du droit, depuis les premiers grands arrêts sur le Lotus, depuis les grands arrêts de la Cour internationale de justice, disent toujours une vérité de bon sens, à savoir que l'État a le devoir et le pouvoir de prendre les mesures adéquates pour protéger son territoire, y compris par une législation. Donc, les grandes conventions internationales, si vous voulez, avec un petit regret aussi, parce que je crois que le passage qui est cité dans la grande convention de Montego Bay consiste à dire, notamment pour des circonstances exceptionnelles, l'État a le droit de protéger. Alors, évidemment, l'ERICA est une circonstance exceptionnelle, mais si la jurisprudence est limitée à la circonstance exceptionnelle, on peut se demander si des marées noires petites passeraient le cap du contrôle de la conventionnalité, comme on dit en droit à proprement parler. Donc cette chose ne nous faisait pas peur, pas tellement peur, mais il y avait le précédent de l'affaire de Montédison, compétence du juge, puis la pollution, c'est la Cour de cassation, a dit, en arrêt 2 avril 78, les conséquences d'une pollution qui se fait ressentir sur le littoral, à proprement parler, le juge est compétent. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Sur l'affaire de la responsabilité pénale de Total, on était effectivement extrêmement attaqué, puisqu'il reprenait les mêmes arguments sur la sévérité de la loi. Mais la Cour de cassation a complètement renversé la situation. Parce qu'elle a dit, peut-être, oui, Total était un fretteur, mais vous avez oublié une chose. C'est que, après tout, dans la Convention internationale sur l'exonération, et en droit, c'est classique, quand vous avez une exonération, vous n'avez pas une exonération totale. Vous n'avez pas une exonération pour des fautes d'une particulière gravité. Et la Cour de cassation a requalifié. Et donc, a déclaré Total responsable, à la fois, et sur le plan civil et sur le plan pénal. La société RINA a été retenue également. La théorie du dommage écologique a été, en quelque sorte, accepté directement par la Cour de cassation, mais sans discussion. L'arrêt fait 415 pages, mais vous savez ce que c'est que la Cour de cassation. Effectivement, elle reprend tous les moyens. Puis la partie importante, c'est 4 pages, à peu de choses près. Elle a dit que la Cour d'appel de Paris avait bien jugé. Alors, ce qui fait qu'en définitive, il faut se référer à la Cour de Paris, à ses méthodes, pour savoir exactement comment calculer le dommage écologique et le considérer comme admissible. Je dois dire au passage quand même qu'il y avait une chose qui nous a bien aidé pendant le cours du procès, c'est qu'il y a un sénateur intelligent, qui s'appelle Monsieur Retailleau, qui est en Vendée, et qui a eu l'idée de changer un petit article 142.4 du Code de l'environnement pour dire que les collectivités publiques pouvaient réclamer dommages directs et indirects, comme les associations. Et comme vous le savez, effectivement, ces modifications législatives qui déclarent recevables des parties civiles pour dommages directs ou indirects s'appliquent dans la procédure, la Cour de cassation dit c'est une loi de procédure, ça s'applique en cours d'instant. Ça nous a un peu aidé effectivement en appel, et ça ne résout pas de façon définitive la question du dommage écologique. Il est donc temps de tirer un peu les conséquences de tout cela. Tirer les conséquences de tout cela, c'est c'est prendre plusieurs points rapides. Puis après ça, ce sera ouvert à la discussion. D'abord, dans tout ça, ce qui est extrêmement important. C'est pas forcément l'avocat. L'avocat fait son travail. Il doit choisir le meilleur angle d'attaque. C'est le juge, lui-même, à peu de choses près, dans sa solitude, en fonction du droit, qui tranche en fonction des impératifs et sa représentation de l'intérêt général. Et incontestablement, vous comprenez bien, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, quand on part de rien et qu'on arrive à quelque chose, il faut bien que le juge invente. Et le juge est capable d'invention. Pourquoi ? Parce qu'il a il a quelque chose d'extrêmement précieux devant lui, c'est le débat contradictoire. Il a toutes les parties, il a l'ensemble des personnes, il a l'expertise, il a la possibilité, effectivement, de créer le droit. Façon très différente de la façon dont est élaborée la loi au Parlement. Le Parlement, c'est des groupes de pression, c'est des interventions, c'est tel parti politique qui dit ceci, ce ne sera pas autrement, etc. Et avec la fameuse phrase, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire, quand on pousse l'extrême, on n'est plus dans le droit. Mais avec le juge, on est toujours dans le droit. Je crois que, comment dirais-je, c'est quand même, quand je vois ce qui se passe à l'étranger, au Nigeria, on en parlera après, peut-être à l'Équateur, etc., on retrouve des décisions qui s'inspirent des décisions françaises sur la responsabilité ultime et sur les dommages écologiques. Donc, ces procès-là, c'est un hymne au droit et au juge d'abord. Deuxièmement, ça oblige toujours la société civile à s'organiser. Et j'ai connu, quand j'étais aux États-Unis, des problèmes d'organisation absolument épouvantables dans l'affaire de Bhopal. Je serai très bref là-dessus. Mais si, je vous donnerai des précisions tout à l'heure, mais si le procès Bhopal aux États-Unis, qui est le seul procès étranger qui n'a pas réussi aux États-Unis, nous étions le seul à réussir, c'est à cause des avocats américains qui se sont amusés à approprier à proprement le procès. Donc, par ce qu'on appelle des résultats d'honoraires, il y a eu des propositions de transactions. Et puis le juge... Pardon, ces messieurs, les avocats américains, ont trouvé que c'était pas suffisant et les pauvres Indiens ont été ramenés devant leurs tribunaux. Donc il y a une question d'organisation, de transparence de l'organisation, de responsabilité des avocats. Ça, c'est extrêmement important. Troisièmement, c'est que toutes ces affaires-là ont toujours mobilisé le législateur. Je vais très vite, mais dans l'affaire, de la montée d'Issol, le dioxyde de titane, parce qu'on a négocié après ça avec Bruxelles pour avoir des directives sur le dioxyde de titane, une partie du droit de l'environnement vient du procès de la montée d'Issonne, car les premières directives européennes sur les produits en matière d'environnement, avant le reste, c'est effectivement l'affaire de la montée d'Issonne. D'autre part, l'affaire de la montée d'Issonne, qui a fait un tel scandale à l'époque, est à la source de la Convention internationale de Barcelone. De façon, l'affaire Amoco-Cadiz est à la source de la loi de 83. Donc le juge a poussé le législateur en avant. Vous avez... Alors évidemment, il y a des retours de bâton, parce qu'il paraît que les autorités pétrolières au sein de l'OMI sont tellement émues de notre résultat dans l'affaire de l'Erika, qu'on a fait du dommage écologique alors qu'ils n'en voulaient pas, etc., menacent de faire changer le système. Donc il va falloir se battre encore, c'est pas acquis. Et puis là, dans l'affaire d'Erika, il y a une loi qui va être votée sur la responsabilité civile, on va rajouter toute personne qui cause un dommage à l'environnement, oblige par le suivi par la faute duquel... Il est arrivé à le réparer. Je vais te déposer au Sénat demain sur cette question-là. Il y a un projet de loi en cours pour solenniser le dommage écologique. Alors, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ben, que ceci serve de moteur à un droit préventif. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, la réparation environnementale en argent, c'est pas suffisant. C'est pas suffisamment prospectif et c'est pas suffisamment dynamique par rapport à la vocation du droit de l'environnement. Donc, comment dirais-je, toute cette théorie des unités de biodiversité, par exemple, qui sert à calculer le dommage écologique, devrait pouvoir, ça pourrait jouer en matière de risque aussi dans d'autres domaines, à proprement parler, être imaginée en quelque sorte en avance pour obliger celui qui est une activité à risque de pouvoir compenser dès l'avance. D'ailleurs, ce n'est que depuis la loi Bachelot, par exemple, la loi de 2003, que l'on oblige l'industriel à prévoir la remise en état dans son autorisation. Avant, ça n'existait pas. Là, ici, on dirait dans la théorie des unités de biodiversité, vous faites une autoroute, vous faites un hangar, vous faites une usine, vous prenez tant d'unités de biodiversité, ramenez-les-moi. Donc, ça, c'est pas moi qui fais ça. Non, c'est pas... Alors, mais c'est pas grave, parce que c'est une nuisance et c'est pas une pollution, et ça se corrige facilement. Donc, vous avez, effectivement, la possibilité de faire de la prévention. Ce que je vois aussi, moi, je suis assez optimiste, d'une certaine façon. Je vois que les juges, dans différents endroits... Dans l'œuvre de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple en matière d'environnement, ce qui se passe aux Nations unies à propos du Niger, ce qui se passe à l'Équateur, etc., où Chevron a été condamné à 16 milliards de dollars pour avoir pollué toute une région pendant 30 ans, un peu de choses près. Donc ça n'est pas du symbolique à proprement parler. C'est que, pratiquement, il y a là une voie, si vous voulez, pour construire le droit international de façon non délibérée, mais par la société civile. Je vous remercie de votre attention.